France Culture.
Bonjour Jean-François Corti.
Bonjour Caroline.
C'est le troisième temps de notre série à voix nue qui en comporte cinq. Troisième épisode, auprès des migrants, parce que après avoir parlé de votre bain familial et culturel et avoir expliqué les raisons de votre vocation, je pense qu'à un moment on peut appeler ça une vocation, après nous avoir raconté les premières missions internationales, retour en France, au sein de Médecins du Monde, où en 2008-2009, vous prenez la direction des opérations sur le sol français. Donc je voudrais que... on parle dans ce troisième épisode de votre rôle au sein de cette association et en particulier du rôle de cette association par rapport à la question des migrants. Migrants, réfugiés, c'est une des populations sur lesquelles intervient beaucoup Médecins du Monde. Pour faire quoi ?
Médecins du Monde intervient dans une trentaine de pays à l'international, mais aussi à des projets en France depuis sa création, depuis le début des années 80. Et d'ailleurs avec un modèle intéressant puisque il permet à la fois des bénévoles et des salariés de travailler ensemble. C'est aujourd'hui près de 1500 bénévoles pour environ 200-300 salariés sur le territoire français. Pour les opérations en France, il y a environ une quarantaine de projets, y compris à Mayotte, y compris en Guyane. Et c'est très intéressant de voir que on crée les conditions pour des bénévoles, pour des acteurs de société civile, de vivre un engagement au travers de la pratique sanitaire et sociale dans notre association, concrètement, alors qu'on est dans son propre pays.
La première action, qui n'est pas n'importe quelle action, c'est une action d'éclat d'ailleurs, c'est que vous avez monté en urgence des tentes pour accueillir 120 personnes, des personnes roms en l'occurrence, qui étaient expulsées par la police. On est en 2008-2009.
Oui, c'est une période où, de la présidence Sarkozy, si je me souviens bien, où les Roms, qui sont des citoyens européens, vivent une situation très difficile. Il y a énormément de destruction de campements et il n'est pas rare de voir, notamment en banlieue de Lyon ou en banlieue parisienne, des populations roms qui sont expulsées de leur lieu de vie à plusieurs reprises, avec des intervalles très courts. Et donc, ce sont des personnes qui passent de la caravane au squat pour finir dans la rue. Et on se retrouve dans une situation en banlieue de Paris où effectivement on a des équipes qui font des maraudes, c'est-à-dire qui vont régulièrement au contact de ces populations pour les aider à ouvrir des droits, notamment en matière d'accès aux soins, à les accompagner dans l'intégration d'un parcours sanitaire et social. Et on se retrouve avec des personnes qui, en fait, n'ont plus rien, ni à manger, ni à boire, ont perdu leurs affaires, parfois avec des morts. Un enfant est mort brûlé dans un incendie. Et on se retrouve, en fait, avec des communes qui se renvoient des populations d'une commune à l'autre en disant qu'ils ne veulent pas s'en occuper, avec des forces de l'ordre qui sont censées les expulser. Et on se retrouve dans une situation où, et c'est vraiment une population rome avec des femmes, des enfants qui n'ont plus rien, qui sont dans la rue et pour lesquels on n'a aucune solution. Et l'action humanitaire, la définition un peu caricaturale, c'est d'intervenir auprès d'une population qui vit une situation de rupture face à un état antérieur, une situation de rupture dans sa capacité de répondre à ses besoins vitaux, se loger, se nourrir, se soigner, et une rupture qui est liée soit à une guerre nationale, transnationale, qui est liée à une catastrophe naturelle, à un tsunami, à un tremblement de terre, mais qui peut être aussi liée à des politiques répressives qui vont les mettre dans une situation d'inconfort matériel, voire dans des situations de survie. Et ces populations roms, du fait d'une accélération des expulsions, de la destruction de leur lieu de vie sans alternative de relogement, se retrouvent dans une situation d'incapacité de répondre à leurs besoins vitaux. Et donc, ça fait sens de leur apporter de l'aide. Et là, on s'installe sur un terrain qui est à proximité. Et l'idée qu'on a à l'époque, c'est de... l'idée basique, c'est juste de les héberger. Et avec quoi ? Avec des tentes qu'on a stockées à l'aéroport, pas loin, dans nos stocks, qui sont prêts à partir pour les urgences. L'APOC, c'est le Darfour et d'autres contextes. Voilà. Et moi, je suggère que, en fait, on sorte ces tentes de nos stocks pour les proposer aux opérations en France. Et c'est là où en termes de communication, en termes d'engagement, on va rentrer dans l'idée d'illustrer qu'est-ce qui se passe pour ces précaires chez nous, dans un contexte où on n'est pas censé imaginer des besoins humanitaires dans un pays qui est riche. Entre guillemets, la France est un pays riche, c'est la sixième ou la cinquième puissance mondiale à l'époque. Il n'y a pas de raison d'avoir des gens qui sont quasiment en logique de survie et par centaines, là, c'est pas 5-6, c'est des centaines de Roms. Hein. Et ensuite, on verra avec la période 2012-2015 les milliers, dizaines de milliers de personnes dans des conditions affreuses, notamment à Calais et Grande-Synthe. Et donc, on construit un camp et en fait, on utilise toute l'opérationnalité, mais en France, qu'on a l'habitude de faire dans des zones de guerre. Et ça, évidemment, ça marque les esprits. Parce que c'est pas que de la com, ça répond d'abord à un besoin. Et moi, je suis pas choqué, mais je suis témoin de ça. Alors même que j'arrive de l'international, de toutes les zones qu'on a évoquées, d'Afghanistan, du Niger, on n'est pas dans des zones de guerre, mais on est dans des zones où des politiques répressives mettent des centaines, voire des milliers de personnes dans une incapacité de répondre à leurs besoins vitaux. Et donc, on les met à l'abri et on joue sur le registre communicationnel en disant, regardez, y compris en bordure de Paris, il y a des gens qui ont besoin d'acteurs humanitaires comme nous, avec des mêmes standards opérationnels qu'on propose à l'international, c'est-à-dire des cliniques mobiles, des latrines, distribution de nourriture, d'eau propre, voilà. Et la préfecture, à l'époque, nous fait un procès, parce qu'on occupe un terrain qui leur appartient. Et en fait, c'est un procès en référé, donc ça va assez vite. Et
en fait, juin 2009 a lieu ce procès.
Le jugement est en notre faveur et le juge reconnaît qu'on a avant tout permis à des gens d'être protégés, à des enfants. Et évidemment, ça va ensuite amener à une certaine évolution juridique au travers notamment de certaines lois qui vont émerger ensuite sous le gouvernement de Hollande et qui sont censées imposer au préfet le fait qu'avant d'évacuer des terrains occupés par des Roms ou autres, ou des squats, vous devez faire un diagnostic sanitaire, social, et proposer des alternatives de relogement. Ça n'a pas marché longtemps, beaucoup de préfets ne l'ont pas respecté, et ensuite, d'ailleurs, que ce soit sous Hollande, Valls, Cazeneuve, et ensuite, en même temps, je dirais, la droite, la gauche, ou en même temps, pour les populations roms, ça n'a jamais changé leurs conditions de vie. Il y a toujours eu des politiques répressives depuis cette période. Mais ce qui a été important et fondateur pour moi, c'était de pouvoir objectiver qu'en pays riche, il y avait une légitimité d'un discours, d'une opérationnalité et d'un plaidoyer de nature humanitaire.
Et vous avez récidivé, si vous me permettez cette expression et ce verbe, Jean-François Corti, sous un gouvernement de gauche, justement, parce que c'est en 2012 que commence la premier terrain d'intervention à Calais, avec une situation, là aussi, peut-être d'urgence, mais surtout un échec des politiques d'accueil.
Oui, enfin, un échec totalement assumé. C'est un échec construit. Quand on est la cinquième ou sixième puissance économique mondiale, laisser 6 à 10 000 personnes dehors, dans le froid, sans eau, sans nourriture, avec des forces de l'ordre qui détruisent tous les abris que vous construisez pour vous dissuader de rester sur le territoire, c'est pas un échec. C'est assumer le fait, et c'est ce que je réalise moi quand je suis à ce moment-là aux opérations avec les équipes à Calais et Grande-Synthe, sur ce territoire où il y a beaucoup de migrants qui essaient de passer en Angleterre, et avec une des nouveautés dans les profils des migrants, c'est-à-dire que vous n'avez plus l'adulte jeune qu'on a toujours connu, qu'on a vu à Sangatte en 2002, de l'Afghan ou du Guinéen qui est jeune, qui va migrer, qui va s'exiler, qui va souvent vivre des situations extrêmement difficiles sur son parcours migratoire et qui va aussi vivre des situations difficiles dans les pays d'accueil. Là, il y a des familles. Il y a des familles syriennes, il y a des familles érythréennes, il y a des femmes, il y a des enfants en bas âge. C'est 5 à 10 000 personnes qui se retrouvent dans le plus grand dénuement. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que c'est un échec construit. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est les conditions qui sont créées par la France, mais d'autres pays européens, pour dissuader les migrants de rester. Évidemment, il y a des exilés qui sont accueillis en France. On parlera notamment de ceux qui bénéficient de l'aide médicale d'État, de ce sujet qui est important, l'accès aux soins au travers de ce dispositif, mais aussi tous les fantasmes qu'il y a autour de ça. Il y a donc des exilés qui sont bien reçus, mais il y a une forte densité de population qui sont très mal reçus. Et là, on intègre le fait que les autorités françaises assument de ne pas en faire plus qu'elles pourraient en faire. Et là, je pense qu'il y a une critique à formuler. parce que notamment la société civile peut jouer son rôle. On n'est pas forcément obligé de tout attendre de l'État, que ce soit dans le champ du sanitaire, social ou autre. Et donc l'État peut s'appuyer sur la société civile. Et il y a beaucoup d'acteurs de société civile qui sont prêts à mieux accueillir, à accueillir davantage d'exilés. Et pourtant, l'État a mis des bâtons dans les roues, notamment avec la question du délit de solidarité, qui était un dispositif qui mettait la pression sur les associations, qui risquaient de désenvoyer les bénévoles et les salariés en prison sous prétexte qu'on aurait aidé des exilés. L'État n'a pas joué ce rôle-là. Et en fait, ce qu'on observe entre 2012 et 2015, au travers de cette expérience de migration douloureuse, où il y a ces nouveaux profils de familles et d'enfants, c'est que l'État crée les conditions pour dissuader les personnes de rester et assume une institutionnalisation de la violence. C'est-à-dire que régulièrement, les tentes que l'on va distribuer, nos Médecins du Monde ou d'autres associations, beaucoup d'associations locales, de citoyens, de riverains à Calais, se sont organisées, aussi avec des mairies et des maires qui ont essayé d'être des maires accueillants, ont distribué des tentes, de la nourriture, mais régulièrement, les tentes, elles étaient déchirées par les forces de l'ordre, détruites, et dès que des abris étaient constitués, on harcelait, en fait, ces populations exilées en les faisant sortir de la ville de Calais et en les invisibilisant. Donc, il y a une intégration dans les stratégies étatiques, peu importe qu'elles soient de droite, de gauche ou de l'en même temps, encore une fois, on l'a vu sur toutes ces périodes, qui assument que la violence est un outil institutionnel de dissuasion pour créer les conditions que les exilés ne restent pas sur le territoire. Le deuxième point que j'observe, c'est que l'État, à ce moment-là, est prêt aussi à utiliser la criminalisation de l'aide, c'est-à-dire mettre la pression sur les aidants, les soignants, les associations, en leur disant « attention, si vous aidez les exilés, vous allez aller en prison et autres ». Cette idée de la criminalisation de l'aide, ça préfigure ce qui est encore plus fort aujourd'hui, et on y reviendra sur la question de notamment des montées d'idées d'extrême droite et de racisme, et entre autres, c'est que on voit bien que la question de l'exil ne se résume pas à l'exilé lui-même qui a un problème. C'est les associations et les aidants qui deviennent aussi un problème. Et donc, il y a une mise en tension avec une approche démocratique de notre vivre ensemble, puisque nous, on n'est pas des exilés, des associations, on est des Français, si je peux me permettre. Et quand bien même nous sommes Français, on va dire, on va nous mettre des bâtons dans les roues et on va nous empêcher de faire des actions qui répondent simplement à des exigences de respect des droits fondamentaux. Donc, cette idée de la criminalisation de l'aide est quelque chose qui, moi, me marque à ce moment-là. Et peut-être deux derniers points, je fais rapide. On observe aussi des stratégies à l'échelle européenne dont la France fait partie, de ce qu'on appelle la gestion externalisée de l'asile. C'est-à-dire que c'est là, à ce moment-là, qu'on va aussi réaliser que les Européens, notamment après les accords de La Valette, vont dealer avec des pays, notamment la Libye, qui sont au lime de l'Europe. Et quand bien même c'est des régimes, et on le sait en Libye aujourd'hui, où on fait de la traite d'êtres humains, où les exilés sont torturés, on crée les conditions de financer des États pour qu'ils gèrent en fait ce qu'on veut pas voir à distance. Et puis le dernier point que j'observe lors de cette expérience entre 2012 et 2015, sur notamment l'expérience migratoire de Calais et de Grande-Synthe, c'est comment la question migratoire est instrumentalisée dans le champ du politique, va faire le jeu, entre autres, de l'extrême droite, avec, c'est le début des réseaux sociaux. Moi, les premières fois que je fais des tags et des posts sur Calais et Grande-Synthe, la première fois que je me fais menacer, que j'ai des menaces physiques, des menaces verbales, que, en fait, la contestation de ceux qui s'opposent frontalement à l'idée d'accueillir, qui sont souvent d'obédience d'extrême droite, elle commence à s'incarner physiquement et même à nous impacter. Alors, c'est important de dire ça pour moi, en tout cas dans ma vie professionnelle, d'engagement, mais aussi dans ma vie personnelle. C'est la première fois que je commence à être menacé, gentiment, je dirais, par les réseaux sociaux. On verra après que sur d'autres combats, et notamment aujourd'hui sur la question du conflit israélo-palestinien, j'ai des menaces de mort comme d'autres parce que j'ose m'exprimer sur le fait qu'il y a des atrocités qu'il faut dénoncer dans une dynamique d'anéantissement, notamment à Gaza. Mais ça pour dire que à partir de ce moment-là aussi, Je vois comment, c'est pas nouveau, mais moi j'en parle de ma vie, de mon expérience, au travers de ce que je peux vivre là, il y a une instrumentalisation de la question migratoire, des fantasmes, on nous explique voilà, qu'il y a une vague migratoire qui va venir déstabiliser nos filets sociaux, c'est pas vrai, que le fait d'avoir des dispositifs tels l'aide médicale d'État, ça crée un phénomène d'aspiration, c'est pas vrai, qu'on explique que justement il y a beaucoup d'abus, on entend ça à l'Assemblée nationale, alors encore plus aujourd'hui, mais c'était le début déjà à l'époque, qu'il y a des abus sur les dispositifs d'AME, chirurgie esthétique et autres, c'est pas vrai. Et donc, voilà, on se retrouve par l'action humanitaire au cœur de questions éminemment politiques. Et donc, évidemment, je suis dans mon élément, mais du point de vue d'un acteur humanitaire, impartial, indépendant et non partisan.
C'est aussi un moment, Jean-François Cortier, où justement le gouvernement vous reproche, personnellement déjà, et on va voir pourquoi, mais vous aussi associatif, de faire le jeu de l'extrême droite, et peut-être vous enjoint à la modération, parce que est-ce que c'est pas aussi le premier moment, disons, dans votre parcours à vous, d'humanitaire, où vous éprouvez une réelle colère au sens où vous le dites, hein, vous avez continué de le faire depuis, mais peut-être avec une indignation qui s'exprime explicitement, on va dire. Vous parlez souvent d'impartialité, de neutralité, quoique la neutralité, vous y revenez, mais en tous les cas, là, vous n'étiez pas modéré. C'est-à-dire que ces situations-là vous ont réellement mis en colère.
Disons que quand on travaille à l'international, j'ai déjà expliqué toute la question de l'approche locale, communautaire et autre, et le fait de limiter les risques néocoloniaux, mais de travailler sur des causes communes avec des partenaires locaux, des acteurs de société civile locale, c'est une chose, on est investi, mais on n'est pas chez nous d'une certaine manière, même si on se retrouve avec des acteurs qui partagent les mêmes valeurs, on va dire universelles, de solidarité et autres, et que ça génère de l'engagement. C'est pour ça que j'ai travaillé à l'international. Là, quand on est en France, il y a une dimension supplémentaire qui est que vous êtes dans votre pays, vous avez votre famille, parfois votre histoire. Et ce que je réalise aussi, de manière un peu plus prégnante, c'est le décalage qui existe entre le droit théorique et le droit appliqué dans un territoire qui est censé, un pays qui est censé représenter, notamment à l'international, une certaine idée des droits de l'homme et autres. Et qu'est-ce qu'on voit sur nos propres territoires ? Des personnes qui sont maltraitées par des gouvernements, et peu importe leur tendance et leur obédience politique, qui n'ont pas peur de ne pas respecter les engagements droits fondamentaux des enfants, convention des droits des enfants, ne respectent pas des dispositifs notamment d'accès à de l'eau et à l'hygiène qui sont nécessaires à proposer. Et d'ailleurs, on a souvent utilisé dans notre panel opérationnel, c'est-à-dire dans notre opérationnalité, nous, d'humanitaires médicaux que sont l'accès aux soins et autres, la question de la judiciarisation fait partie de notre panel d'opérationnalité, c'est-à-dire d'aller attaquer l'État pour non-respect des engagements en matière de droit international ou autre. Et d'ailleurs, on a gagné plusieurs référés parce que sur certains terrains où il y avait des campements, il devait y avoir de l'eau et d'autres dispositifs sanitaires que l'État devait mettre en place eu égard à ses engagements nationaux et internationaux et qu'il ne faisait pas. Donc en fait, au travers de cette expérience, évidemment de l'indignation, mais ça c'est la base de tout dans notre métier et dans beaucoup d'autres métiers d'ailleurs.
Mais c'était un bras de fer pour vous à ce moment-là, avec les politiques ?
Oui, c'est un bras de fer et en même temps, on est dans la négociation. Et c'est au cœur de notre métier, la négociation. Et donc, il y a un espace de discussion, de négociation en France à cette époque-là, où moi, de ma position de directeur d'une grosse association comme MDM, avec d'autres associations, je pense au Secours catholique et autres, qui sont aussi très investis sur la question migratoire, notamment à Calais-Grande-Synthe, on a des réunions régulièrement avec les cabinets du ministère de l'Intérieur, entre autres, et des discussions pour être force de proposition sur des alternatives, et notamment l'idée de pouvoir créer ce qu'on appelle des centres d'accueil et d'orientation, ces fameux CAO à l'époque.
Répartis sur tout le territoire.
C'était l'idée de désengorger Calais et de créer les conditions où les personnes exilées puissent vivre un moment de répit où ils puissent être soignés, connaître leurs droits et pouvoir choisir de faire une demande d'asile ou pas, et ensuite de faire le choix qu'ils veulent de rester ou de partir. On sait que beaucoup de personnes vont en Angleterre, des exilés à l'Angleterre, parce que d'abord la barrière de la langue était moins problématique, ils parlent plus souvent anglais que français, parce qu'ils ont souvent des réseaux de solidarité en Angleterre qui peuvent les aider à être dans une intégration plus dynamique, et puis qu'on sait qu'au regard du droit du travail, pour le meilleur comme pour le pire, il y a plus de facilité de travailler en Angleterre, avec plus de risques aussi d'être démis de son travail qu'en France. Donc voilà, il y avait tout un tas de raisons qui faisaient, et aussi parce que les centres d'accueil et d'hébergement d'urgence sont saturés en France, qu'il y avait beaucoup de familles qui dormaient à la rue, ben, ils espèrent aller dans un autre lieu d'accueil. Donc ces KO, là, ces centres d'accueil d'orientation, ils n'ont finalement pas bien marché parce que c'était pas préparé, il n'y avait pas de moyens, et donc ça, ce dispositif a foiré. Mais oui, on est dans une logique de plaidoyer et de négociation quand on est humanitaire comme nous, parce qu'on a une expertise de terrain, on est capable de pouvoir, avec ceux qui le souhaitent et qui sont au pouvoir, échanger sur des points de vue pour trouver des terrains d'entente pour faire avancer les choses. Mais ce n'est pas le cas de tous les acteurs politiques avec lesquels on est en discussion.
Et quand vous avez affaire à plusieurs États, comme ça a été le cas en Europe par la suite, Jean-François Corti, les choses se compliquent peut-être encore plus, puisqu'en 2016, vous devenez le directeur des opérations internationales de Médecins du Monde, à un moment où l'Europe est confrontée à ce qu'on a appelé une crise migratoire, en tout cas où l'attention médiatique a été portée sur l'afflux de réfugiés arrivant notamment de Syrie, et où les traversées en Méditerranée était meurtrière déjà à cette époque-là, et Médecins du Monde aide l'association SOS Méditerranée à mettre en place des opérations de sauvetage. Pas facile, encore une fois, à ce moment-là. Vous faites état, alors dans toutes ces années, hein, entre 2010 et 2020, disons, de harcèlement institutionnel, de précarité fabriquée, de stigmatisation des exilés, de boucs émissaires. Bon, alors là, on a à la fois sauvé des gens dans la mer, parce qu'ils sont en train de mourir, et ensuite, que faire de ces migrants? Comment avez-vous géré cela?
Ben c'est un moment très important dans mon investissement parce qu'effectivement d'abord à cette époque-là je reviens sur les enjeux internationaux, hein, je les avais quittés depuis l'époque d'MSF et je m'étais concentré sur les enjeux en France qu'on vient d'évoquer, donc à nouveau je retrouve une dimension internationale où je suis à l'aise, expérimenté, et en fait, on se retrouve dans une situation où à l'échelle de l'Europe on observe des mesures politiques européennes, notamment sur la question migratoire, où on observe des décisions, et notamment la baisse des voies légales pour rentrer en Europe, qui vont engendrer beaucoup de mortalité, qui vont accentuer la prise de risque des exilés et qui donc vont créer ce qu'on appelle un surplus de morbi-mortalité, c'est-à-dire que les gens vont être davantage prendre de risques, donc ils vont davantage se noyer. Et la mer Méditerranée, c'est un cimetière marin où il y a depuis des années des dizaines de milliers de personnes, des femmes et des enfants, qui se sont noyées. Et puis, donc, il y a des prises de risques qui sont beaucoup plus importantes et qui soumettent d'ailleurs les exilés à des situations d'exposition à des mafias, à de l'informel, parce que ils veulent se cacher, parce qu'il y a un système, le fameux système de Dublin européen, qui impose qu'on doit, quand on est exilé, s'enregistrer dans le premier pays dans lequel on est rentré pour y rester, qui sont en général les pays aux frontières de l'Europe, la Pologne, l'Italie, entre autres. Et donc, beaucoup d'exilés qui arrivent dans ces pays ne veulent pas y rester. Et donc, ils sont obligés de se cacher pour pas être enregistrés. On a vu des exilés se cramer la pulpe des doigts pour pas qu'on puisse prendre leurs empreintes digitales. Et puis, surtout, on a énormément de mortalité, de gens qui se noient en mer Méditerranée. Et d'où l'idée d'accompagner, en tout cas d'aider, à l'époque c'est Sophie Beau, hein, qui crée SOS Méditerranée, qui est une ancienne d'ailleurs de Médecins du Monde, et donc on les aide en leur apportant la dimension médicale, opérationnelle sur le bateau, mais aujourd'hui SOS Méditerranée est une très belle organisation, indépendante, et qui a différents partenaires. Et voilà, et on sauve des vies, clairement, dans un contexte où ces vies, elles sont mises en danger par des décisions politiques totalement assumées des Européens. toute cette expérience européenne, en tout cas, nous montre, nous qui sommes investis sur cette question, comment les Européens, qui sont des démocraties, sont prêts aussi à remettre en question les conventions de Genève, le droit d'asile, tout ce qui a construit un certain idéal, on va dire, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en ayant pris justement les leçons du passé douloureux pour essayer de reconstruire un environnement international beaucoup plus apaisé. Non, là, tout ça commence à être battu en brèche. Et on est dans des situations aussi où, lorsque moi je fais du témoignage, qui est mon travail, que je fais la presse, je me retrouve de plus en plus face à des acteurs qui m'expliquent qu'en fait, nous, les associations, on est des complices de passeurs, qu'en fait, on est un problème, et qu'on est des criminels, et qu'on est dans des activités, pseudo-mafieuses, et que donc, on va nous faire la peau. Ça, c'est vraiment un problème majeur, parce que c'est les prémices de ce qui aujourd'hui est en train d'exploser de manière beaucoup plus forte sous pression des populismes illibéraux, avec notamment, on en discutera, la fermeture de l'USAID américaine, l'agence de Trump, mais aussi les baisses des aides publiques au développement sous pression de l'extrême droite. On est déjà là dans ce qui préfigure, pour moi, une régression démocratique, l'attaque d'ONG qui sont considérées comme aussi un problème sur la question migratoire. C'est plus exclusivement les exilés qui sont un problème, c'est aussi les gens qui les aident.
Mais comme vous disiez dans une émission précédente, je crois qu'il n'y avait pas d'opération humanitaire réussie sans relais, et en particulier sans relais médiatique, parce qu'il faut quand même que les choses aussi se sachent et que le témoignage fait partie de votre métier. À l'époque, là, autour des années 2018, vous êtes devenu un peu référent sur les questions migratoires. Vous êtes beaucoup passé dans les médias, et certains médias en particulier. Est-ce que vous diriez rétrospectivement que cette médiatisation, elle a été, ou elle est encore d'ailleurs, utile ou contre-productive au fond ?
Je pense qu'elle a été utile, en tout cas, moi et les autres acteurs qui ont joué ce rôle de sensibiliser l'opinion publique et les politiques. Si c'était à refaire, je le referais. Mais de fait, ça n'a pas empêché, si on regarde depuis notre œil actuel, la progression des idées, on va dire, racistes, du refermement sur soi, de la peur des exilés, le fait qu'on continue à instrumentaliser cette question migratoire. Voilà, aujourd'hui, on nous fait croire que c'est parce qu'on va empêcher des humanitaires de sauver des vies en mer Méditerranée que le système de santé sera meilleur, que c'est en supprimant l'aide médicale d'État que les Français seront mieux soignés. Tout ça, c'est faux. Et malgré toute notre sensibilisation, tout notre travail pour essayer d'inverser la tendance, il y a une forme d'échec aujourd'hui. On a beaucoup travaillé sur les représentations des exilés en essayant de sensibiliser nos concitoyens sur le fait qu'il y avait beaucoup de données qui montraient que lorsqu'une société accueillait de manière positive et dans de bonnes conditions des exilés, c'était une plus-value économique, sociale pour les politiques, pour les États qui accueillaient dans ces conditions. Tout ça, finalement, a assez peu marché. Moi, quand je sors mon ouvrage « La France qui accueille », c'est bien dans cette idée de valoriser.
En 2018, justement. Voilà, parce que vous ne baissez pas les bras.
Valoriser. Je suis dans cette logique de comment sensibiliser mes concitoyens. Et je vois que ça ne marche pas. Même quand on leur raconte des histoires, même quand on leur montre des enfants qui se noient en mer Méditerranée, ça n'empêche pas la montée des idées extrêmes.
C'est un tour de France de l'hospitalité, voilà. La France qui accueille.
C'est l'idée de montrer des expériences d'accueil, plus ou moins formelles, informelles, par des acteurs associatifs, par des mobilisations de sociétés civiles. Ville totalement anodine, en milieu rural, milieu urbain, dans les banlieues. Et on voit que la société civile, elle est très engagée et qu'elle veut faire plein de choses pour aider les exilés et qu'il faut l'accompagner dans cette aspiration-là. Je vois au travers de ce Tour de France, notamment dans les banlieues, comment la jeunesse française, deuxième, troisième génération, notamment de migrants d'Afrique du Nord, se mobilise pour être dans l'action solidaire, pour faire en sorte qu'on parle des quartiers autrement que sous le scope de la violence et des actions policières. Et voilà, et je trouve que au travers de la solidarité vis-à-vis des exilés, il y a la possibilité de fédérer notre société autour de valeurs communes. Et ça, les autorités de droite comme de gauche, comme dans le même temps, n'ont pas surfé sur ça pour en faire un projet de société, pour renforcer cette dimension solidaire de notre projet social. Et je pense que c'est tout à fait dommageable et que c'est quelque chose qu'il faut continuer à porter, cette idée de la solidarité dans nos politiques publiques.
qui va au-delà, cette idée de la solidarité publique, qui va au-delà pour Médecins du Monde, Jean-François Corti, de la population des migrants, des exilés et des réfugiés, puisque l'action de Médecins du Monde porte aussi sur toutes les populations précaires, vulnérables, déclassées, et notamment en termes d'accès aux soins, de santé. Ça sera l'objet de notre épisode suivant, l'épisode 4, Solidarité et précarité, la santé en France. Merci et à demain.
Merci.
C'était À Voix Nue avec Jean-François Corti, réalisation Charlotte Roux, prise de son Raymond Alboui, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.